Gacougnol, exceptionnellement jugé digne, ne l'avait connu que par lui. L'occasion peu banale de la première entrevue de Léopold et de Marche Noire avait été, quelques années auparavant, un article de revue où le critique redoutable réclamait au nom des bourgeois les supplices les plus rigoureux pour ce Léopold qui menaçait de ressusciter un art défunt dont les gens d'affaires n'avaient jamais entendu parler. Cet art, qu'on devait croire emmailloté dans les cryptes du Moyen-Âge, allait-il donc vraiment renaître par l'insolente volonté d'un homme étranger aux acquisitions modernes et s'ajouter aux autres chimères dont les va-nu-pieds de l'enthousiasme ont la sottise de se prévaloir? L'urgence d'une répression étant manifeste, Marche Noire énumérait, avec la précision d'un charcutier de Diyarbakır ou de Samarcande, les superfins et précieux tourments supposés capables d'étancher la vindicte boutiquière et de faire équilibre à l'énormité de l'attentat. Cette sorte d'ironie, si souvent pratiquée par le pamphlétaire, allait à tel point d'exaspération et de frénésie, finissait par devenir une spirale si furieuse de sarcasme, de contumélie, de grincement, que Léopold, jusqu'alors assez peu frotté de littérature, eut comme une révélation de la puissance des mots humains. Il se persuada que l'art de son étrange défenseur correspondait mystérieusement au sien. La violente couleur de l'écrivain, sa barbarie cautelleuse et alambiquée, l'insistance giratoire, l'enroulement têtu de certaines images cruelles, revenant avec obstination sur elles-mêmes comme les convolvues vacées, l'audace inouïe de cette forme, nombreuse autant qu'une horde si rapide, quoique pesamment armée, le tumulte sage de ce vocabulaire panaché de flammes et de cendres, ainsi que le Vésuve au dernier jour de Pompéi, balafré d'or, incrusté, crénelé, denticulé de gemmes antiques, à la façon d'une chasse de martyrs, mais surtout l'élargissement prodigieux qu'un pareil style conférait soudain à la moins ambitieuse des thèses, au postulat le plus infime et le plus acclimaté. Tout cela parut à Léopold un miroir magique où bientôt il se déchiffra lui-même avec le hoquet de l'admiration. « Vous êtes un enlumineur beaucoup plus fort que moi, » avait-il dit simplement à Marche Noire, « et je sollicite vos conseils. »« Pourquoi pas ?» avait répondu celui-ci. « Ne suis-je pas le contemporain des derniers hommes du Bas-Empire ?» Et il s'était expliqué. On oublie toujours que le Moyen-Âge a duré 1000 ans. De Clovis à Anastase jusqu'au Christophore, en passant par Jeanne d'Arc et le dernier Constantin, la mesure est pleine. 1000 ans, n'est-ce pas inintelligible ? Quand on nous dit que le Soleil est 1 400 000 fois plus gros que la Terre et qu'un gouffre de 38 millions de lieues nous en sépare, ces chiffres nous paraissent absolument dénués de sens. Même observation pour la durée de telle ou telle période historique. L'homme est si surnaturel que ce qu'il réalise le moins, ce sont les notions de temps et d'espace. 10 siècles, 160 papes, 600 rois ou empereurs, sans compter les princes barbares, 30 ou 40 dynasties et à peu près autant de révolutions qu'il y eut de batailles. Allez donc vous y reconnaître, fussiez-vous archange. Massacres, dévastations, villes en feu, villes en prière, populations suspendues à la frange de la robe des thaumaturges, carillons et toxins, pestes et famines, interdits et tremblements, cyclones d'enthousiasme et trombes d'épouvante, pas de halte, même sous les pieds des trônes, nul refuge certain, même dans la maison de Dieu. Les saints, il est vrai, poussent dans les ruines et font ce qu'ils peuvent pour que ces jours soient abrégés. Mais ce sont des jours de 25 ans. Hélas, et il n'en faut pas moins de 40. Carême sans exemple dont la durée, plus encore que la rigueur, met en désarroi la faculté de penser. On conçoit que certains désespérés demandent à Dieu, si cette pénitence incomparable était simplement pour aboutir aux alléluia dérisoires de la Renaissance, et à la vacherie chrétienne de ce dernier siècle. Moi, Marche Noire, je ne puis former une pareille interprétation, puisque, comme je viens d'avoir l'honneur de vous le dire, je suis un contemporain des derniers hommes du Bas-Empire, et, par conséquent, fort étranger à ce qui a suivi la ruine de Byzance. Il me suffit de croire que tant de souffrances furent endurées pour que vint un jour la merveilleuse passiflore du Moyen-Âge, qui s'est appelée Jeanne d'Arc, après laquelle, vraiment, le Moyen-Âge pouvait bien mourir. Il râla, cependant, jusqu'au Christophore qui devait le porter en terre, et, seulement alors, l'abjecte modernité eut la permission d'apparaître. Mais la prise de Constantinople, la grande ligne de démarcation. Le Moyen-Âge, sans Constantinople, parut aussitôt comme un arbre immense dont on aurait tranché les racines. Pensez que c'était le reliquaire du monde, l'œcuménique chasse d'or, et que les ossements dispersés de ces vieux martyrs, où l'Esprit-Saint s'était reposé parmi tant d'ingrates générations, eût pu couvrir toutes les villes de l'Occident d'une lumineuse poussière. Elle avait beau être schismatique et très perfide, polluée d'ignominie, ruisselante d'yeux crevés et de sang pourri, elle avait beau faire horreur au pape et aux chevaliers, c'était quand même la porte de Jérusalem, où les bons pécheurs avaient tous l'espoir de mourir d'amour. Une porte si belle qu'elle éblouissait les chrétiens jusqu'en Bretagne, jusqu'au fond des golfes scandinaves. Quelque chose enfin comme un soleil qui ne serait jamais couché. Dites-vous, monsieur l'enlumineur, que les somptueuses applications d'or qui font la gloire des missels du très vieux temps ne sont pas moins que le reflet de l'inimaginable Byzance dans le crépuscule de ces monastères de l'Irlande ou de la Gothie, autour desquels les loups affamés accompagnaient de leurs hurlements les chants des moines implorant Dieu pour les pèlerins du Saint-Tombeau. Ainsi parle Ordéric Vital, qui fut un conteur d'une ingénuité sublime. Depuis le jour où l'empereur Anastase avait affublé Clovis des insignes de la dignité consulaire, il est bien certain que tout ce qui pouvait avoir en Europe quelques vibrations de poésie s'était tourné vers cette ville étrange, la seule au monde que le déluge barbare n'eût pas engloutie. Rome, cela va sans dire, demeurait toujours la mer. C'était là que résidait le geôlier des béatitudes, qui tient les clés en sa main, qui lit et qui délie. Oui, sans doute, mais ce siège de l'incontestable primauté, à force d'outrage, avait perdu tout son décor. Tandis que de l'autre, la rivale de l'Éternel, n'avait eu qu'à étendre les mains, un peu au-dessus de ses imprenables murs, pour tirer à elle toute la magnificence du globe. Comment des peuples si jeunes auraient-ils pu se défendre contre cette prostituée qui ensorcelait les califes ou les rois persans, et dont le mirage seul a fait sortir la reine de l'Adriatique du sein des eaux? L'art de l'enluminure, je l'ai déjà dit, fut une diffusion photogénique de Byzance à travers l'âme rêveuse et mélancolique des Occidentaux. Le miroir à contre-jour est miraculeusement adouci par une enfantine foi de ses mosaïques, de ses prieries, de ses palais, de ses dômes peints, de sa corne d'or, de sa propontide et de son ciel. Il fut, par excellence, l'art du Moyen-Âge et devait nécessairement finir avec lui. Lorsque Byzance devint l'auge à cochon des musulmans, le prestige qu'il avait fait naître s'évanouit. Et les rêveurs au désespoir tombèrent dans l'encre indélébile de Gutenberg ou dans l'huile épaisse des Renaissants. Ce devait être la fin de tout pour un individu tel que moi et pour la demi-douzaine de maniaques dont je suis frère. Vous avez l'avantage d'être un de ceux-là, mon cher monsieur Léopold, et si vous m'avez compris, nous pouvons attendre le jugement universel en nous serrant affectueusement la main. Grande soirée chez Gacougnol. À l'exception de Clotilde, il n'y a que des hommes. Une dizaine d'hommes, en comptant pour tel un serpent à moitié coupé, de l'espèce la plus venimeuse, lequel rampe habituellement dans les crachoirs de divers bureaux de rédaction, et que sa langue féroce a rendu célèbre. On ne le désigne que par le sobriquet diagnostique d'Apémantus. On lui a autrefois cassé les reins à coups de canne, et depuis cette époque, il vaque à ses insolences coutumières, entraînant le râble, assez conforme à une cucurbite où se distillerait de très sûrs poisons. Réunion bizarre, si on peut dire avec profondeur que quelque chose soit bizarre. C'est la fantaisie de Gacougnol de grouper ainsi, de temps en temps, les individus les plus disparates. Qui n'admirerait, par exemple, dans le voisinage immédiat de Léopold et de Marchenoir, la cocasse enveloppe du vieux graveur Klatz, youtre crasseux et puant, mais irréparablement dénué de génie, dont le bafouillage apophlegmatique de brocanteur alsacien est apprécié comme un pharmarque sans rival contre toutes les mélancolies. Il fut beau, dit-on. À quelle époque ? Juste cieux, car on lui donnerait bien 100 ans. La première fois qu'il est rencontré, on peut se croire en présence d'A.A. Severus. Sa barbe longue, dont le blanc terreux ferait peur à la cendre des os des morts, paraît avoir traîné 19 siècles sur tous les chemins et tous les tombeaux. Malgré leur vivacité apparente, les yeux sont si lointains qu'un télescope, semble-t-il, serait expédient pour les observer. Peut-être alors qu'on découvrirait, tout au fond, la face morose du bon Titus regardant mourir Jérusalem. Assurément, de tels yeux durent ensorceler autrefois les filles folles de Tyr ou de Mésopotamie qui venaient jouer de la cithare et du tympanon jusque sous les murs de l'imprenable tour d'Hippicos pour la damnation du peuple de Dieu. Mais depuis ces temps reculés, que de poussière, que de pluie sur ces poussières, que de vent brûlant ou glacé pour tout calciner, tout disséminer, tout abolir. Enfin, ce personnage, qui a toujours l'air de chercher l'arche d'alliance dérobée par les Philistins, quand il pénètre dans un lieu quelconque, doit réaliser, pour des ethnologues chenus, le définitif résultat de la plus irréfutable sélection juive. Le nez lévitique implique à lui seul nécessairement le vélé shmethot, le shofetim, le shir ashirim, ou les lamentations du prophète, et la crasse de 60 générations vulnérables que toutes les ruines planétaires ont saupoudrées, lui est acquise. Zéphirin de lumière n'est pas exclu. Ce mystagogue sans courroux a très certainement oublié l'accueil disgracieux de Pélopidas raconté plus haut. La mémoire des images est inapte à retenir ce qui n'est pas occulte. Celui-ci d'ailleurs se cramponne depuis quelque temps au bonhomme Klatz, dont le rémugle sémite le délecte et qui, par surcroît, lui infibule quelques mots hébreux. Mais l'éclectisme de Gacougnol est attesté surtout par la présence de Follentin, le peintre naturaliste et préalable, dont le succès longtemps captif se déchaîne. On trouverait malaisément une chose plus instructive que le calendrier de ses produits. Après une série liminaire de petits paysages pisseux, égratignés avec labeur dans des banlieues sans verdure, après le demi-triomphe d'un tableau de genre où les amours indécises d'un jeune maçon et d'une brocheuse dessalée au sein d'un garneau se coagulaient sous les yeux en mastic blafard, ainsi qu'un fromage visité déjà, Follentin, lassé de ne paraître point un penseur, s'avisa de répandre un peu de morale philosophique sur ses enduits. On vit poindre alors, à l'inexprimable découragement de plusieurs fantoches de l'appui-main, la surprenante image d'un cocu en cassonade, reconduisant, bougeoir en main, avec la plus froide politesse, un individu sébacé qu'il vient de surprendre, après minuit, au bras de sa femme. Cela s'appelait « en ménage ». Mais la louange fut moindre que pour le garneau dont la vogue, hélas, périclitait, et il fallut trouver autre chose. Changeant tout à fait son tube d'épaule, il peignit, décidément, un grand seigneur, un enfant de tous les preux, dont il étudia le type chez un authentique gentilhomme, qui s'est donné la fonction de ramasser les bouts de cigares de la poésie contemporaine sans parchemin. L'optimate fut représenté, bien malgré lui, sur un bidet, lisant des vers de 25 pieds. Or, il arriva, contre toute attente sublunaire, que ce portrait allégorique fût une manière de bas chef-d'œuvre, et la noblesse de France, la première du monde jadis, une fois de plus, se vérifia, si charogne, que le simulacre engendré par Follentin, confronté à l'original, procura quelques instants l'hallucination de la force. Le repeintre érigea son front parmi les étoiles et put s'annexer quelques disciples. Impossible de le nier. Si ennemi qu'on pût être de Follentin et de son odieuse peinture, documentée à la manière d'une sotte école, son personnage avait une tenue équestre sur ce vase devenu comme un piédestal. À partir de ce moment, le maître nouveau repoussa du pied les châssis de faible étendue et se précipita aux vastes toiles. On s'est bousculé autour de sa messe noire et de ses trappistes en prière, crépis énormes, léchotés au petit blaireau qu'il faut scruter par centimètres carrés au moyen d'une loupe de géologue ou de numismate, sans espoir de réaliser la vision béatifique d'un ensemble. Le premier de ces engins paraît avoir été calculé pour le branle et pour le brandon d'une récente portée de bourgeois que démange la convoitise des lubricités de l'enfer. L'habile homme, toutefois, se croyant quand même désigné pour instruire ses contemporains, c'est en même temps le prodige d'une sorte de jocrisserie peinturière s'exaspérant jusqu'à devenir tourbillon, mais tourbillon noir, combien fétide et profanant. Les trappistes en prière ont voulu être le contre-pied, le rebousse-poil de la précédente révélation. Follentin, dont la crête augmente et dont la moutarde s'affiche de plus en plus, tenait à montrer comment un artiste assez audacieux, pour baiser le croupion du diable, savait en revanche tripoter l'extase. Follentin, tout à coup sorcier, découvrit le catholicisme. Clairvoyance peu récompensée. La vindicative bondieuserie de Saint-Sulpice, appelée en duel, lui passa son goupillon au travers du cœur. Cette fois encore, pourtant, il bénéficia du renouveau de crédit que semblent avoir les préoccupations religieuses aux approches de la fin du siècle. Et sa robe d'initiateur n'est pas devenue l'humble veste qu'on aurait pu croire après un tel coup. La forme extérieure de ce pontife est analogue à celle d'un de ces arbres très pauvres, noyés d'Amérique ou vernis du Japon, dont l'ombre est pâle et le fruit vénéneux ou illusoire. Il est fier surtout de ses mains qu'il juge extraordinaires, des mains de très maigres infantes, aux doigts fluets et menus. Telles sont ses amicales expressions, car il ne veut aucun mal. « Je me fais à moi-même, » déclarait-il à un reporter, « l'effet d'un chat courtois, très poli, presque aimable, mais nerveux, prêt à sortir ses griffes au moindre mot. » Le chat paraît être, en effet, sa bête, moins la grâce de ce félin. Il est capable de guetter indéfiniment sa proie, et même la proie des autres, avec une douceur féroce que ne déconcerte nul outrage. Il accueille tout sur la pointe d'un demi-sourire figé, laissant tomber de loin en loin quelques minces phrases métalliques et trélifilées qui font, parfois, les auditeurs incertains d'écouter un être vivant. Il est celui qui ne s'emballe pas. Le pli dédaigneux de sa lèvre est acquis, pour l'éternité, à tout lyrisme, à tout enthousiasme, à toute véhémence du cœur. Et sa plus visible passion est de paraître un fil de rasoir dans un torrent. Celui-là, c'est l'envieux, dit un jour avec précision Barbet d'Aurevilly, qui l'assomma de ce mot. Sa malignité, cependant, est circonspecte. très soigneux de sa renommée qu'il cultive en secret, comme un cactus frileux et rare, il ne néglige pas de prendre contact avec des journalistes qu'il pense avoir le droit de mépriser, ou avec certains confrères pleins de candeur dont il subtilise les conceptions. On tient pour sûr l'histoire malpropre de cette esquisse de la messe noire, carottée pour quelques louis à un artiste mourant de misère. Ébauche superbe qu'il se hâta d'avilir de son pinceau, après avoir ignominieusement congédié le malheureux qui lui faisait une telle aumône. Il pourra paraître peu croyable que l'indépendant Gacougnol reçoive chez lui un personnage si fait pour l'exaspérer. Mais le brave homme, on l'a vu, ne connaît que son bon plaisir, et c'est à coup sûr dans l'espoir de quelques conflits qu'il a réuni sous le même toit des antagonismes si certains. D'ailleurs, sans parler de Léopold, de Marche Noire, ou de lui-même, n'y a-t-il pas là Bohémond de l'Île-de-France et Lazare Druide, et l'excessive répulsion que peut inspirer un Follentin ne doit-elle pas être 20 fois contrebalancée par ces deux êtres lumineusement sympathiques? Le premier est connu de toute la terre, c'est-à-dire de quelques centaines de songeurs éparpillés pour qui chante un vrai poète. Et c'est à peine si celui-ci, qu'on nomme parmi les plus grands, chante pour lui-même. Persuadé que le silence est sa vraie patrie, il emprunte volontiers le cri des aigles, parfois même le barrissement d'un rhinocéros écorché, pour informer toutes les étoiles qu'il est en exil. Accoutré, pour la risée de la populace littéraire, d'un nom sublime dans lequel il meurt, tout son effort est de s'élancer hors de l'affreux monde où une providence carnassière le claquemura. On pourrait le comparer à un de ces diptères éblouissants, éclos, semble-t-il, dans le lit des fleuves de lumière, qui se précipite jusqu'à en mourir, mais toujours frémissant du même espoir, sur la vitre sans compassion qui les sépare de leur ciel. Un cloporte, sûrement, trouverait une autre issue. Lui ne la cherche même pas. Il s'acharne à l'évasion impossible, précisément parce qu'il la sait impossible, et que c'est sa loi de n'entreprendre que ce qui est tout à fait déraisonnable. On connaît sa haine d'archange pour le bourgeois, la férocité de templier qu'il tient en réserve pour les occasions de confondre ce réprouvé honorable. Ce tueur de cygnes, ainsi qu'il le qualifie, dont Satan même doit rougir dans son enfer. C'est au point qu'il ne paraît pas concevoir une autre manière de se sanctifier. « Ah, je suis forcé de subir ton voisinage, » se dit-il. « Je suis condamné à entendre ta voix goujate, l'expression ridicule de tes idées basses, tes maximes d'avare et d'ignominie sentencieuse de ta vomitive sagesse. Nous allons donc pouvoir rire un peu. Tu ne sortiras pas de mon sarcasme. » Alors, il se fait une minute l'ami du bourgeois, son ami très cher, son plus proche parent, son disciple, son admirateur. Affectueusement, il l'invite à répandre son âme, à dérouler devant lui ses intestins, l'amène peu à peu aux aveux complets, puis, démasquant son étincelante armure, le transperce d'un mot vengeur. La raillerie blanche de ce collatéral des dominations égarées descend quelquefois à une telle profondeur que les victimes ne s'en aperçoivent même pas. N'importe, il lui suffit que cela soit enregistré par les invisibles. Encore un peintre, ce Lazare Druide qui l'accompagne, mais jusqu'à ce jour peu célèbre, et aussi différent de Follentin qu'un encensoir balancé devant l'autel est différent d'un pot de moutarde anglaise dans la salle à manger d'un négociant. Il est peintre, celui-là, comme on est lion ou requin, tremblement de terre ou déluge, parce qu'il est absolument indispensable d'être ce que Dieu a voulu, et pas autre chose. Seulement, il faudrait un peu plus que le langage des hommes pour exprimer combien Dieu a voulu qu'il fût peintre, le malheureux, car il semblait que tout en lui dût s'opposer à cette vocation. Ah, il peut faire tout ce qu'il voudra. Il peut affoler d'admiration ou d'effroi une horde plus ou moins nombreuse d'intellectuels et de passionnés. Probablement même lui arrivera-t-il, un prochain jour, d'éclater sur la multitude par quelque trouvaille gigantesque. Eh bien, non, quand même, ce n'est pas cela. On peut se le représenter vagabond, chef de brigands incendiaires, pirate sans merci, combattant des deux mains comme ce flibustier de cauchemar qui ne bondissait sur les galions de Veracruz ou de Maracaibo qu'après avoir allumé une chandelle dans chacune des boucles de ses interminables cheveux noirs. Il est encore plus facile de le rêver bonnement gardant des pourceaux sous les chaînes de quelques vieux monastères, en un paysage de vitrail, et la tête coiffée du nimbe des saints bergers, car c'est une âme d'une simplicité adorable. Mais la peinture, ou si on préfère, la syntaxe de la peinture, ses préceptes et ses méthodes, ses lois, ses canons, ses rubriques, ses dogmes, sa liturgie, sa tradition, rien de tout cela n'a jamais pu dépasser son seuil. Au fait, ne serait-ce pas là une manière sublime de concevoir et de pratiquer l'art de peintre, analogue à l'évangélique perfection qui consiste à se dépouiller de tout? On lui reproche, comme à Delacroix, l'indigence de son dessin et la frénésie de sa couleur. On lui reproche surtout d'exister, car vraiment il existe trop. Ceux de ses confrères, dont l'imagination est une source de colle, ne s'explique pas un bouillon de vie aussi impétueux. Comment pourrait-il s'attarder à une exactitude rigoureuse, même si elle était indispensable, dans l'exécution de ses tableaux? Ne voit-on pas qu'il risquerait de ne plus rattraper son âme qui galope toujours devant lui sur une cavale sans frein? Eh oui, justement, il n'a que cela, son âme la plus généreuse et la plus princesse des âmes. Il s'en empare, il la baigne, il la trempe dans un sujet digne d'elle et la jette ruisselante sur une toile. C'est tout son métier, cela, tout son procédé, tout son truc. Mais c'est si puissant qu'on en crie, qu'on en pleure, qu'on en sanglote, qu'on en prend la fuite en levant les bras. N'a-t-on pas vu ce prodige se réaliser à l'exposition de son Andronique livré à la populace de Byzance? Il est impossible d'oublier une telle œuvre quand on l'a vue. Fallut-il traîner encore 100 ans sa carcasse dans les sales chemins qui sont au-dessous du ciel? Ce tableau, qu'il a fait connaître, est ainsi ordonnancé. L'horrible Andronique, premier bourreau de l'Empire, inopinément jeté à bas de son trône, est abandonné à la racaille de Constantinople. Et quelle racaille! Toutes les écumes de la Méditerranée, bandits venus de Carthage, de Syracuse, de Thessalonique, d'Alexandrie, d'Ascalon, de Césarée, d'Antioche, matelots génois ou pisans, aventuriers cypriotes, crétois, arméniens, ciliciens ou turcomans. Sans parler de ce grouillement barbare, de cette vase dangereuse du Danube qui empuantit la Grèce depuis le Bulgaroctum. On a jeté le prince infâme dans ce chaos, dans cette cohue effroyable, comme on jette un ver dans une fourmilière. On a dit au peuple « Voici ton empereur, mange-le, mais sois équitable. Il faut que chaque chien ait son lambeau. » Et ce peuple immonde, exécuteur d'une justice qu'il ignore, désarticule et grignote son empereur pendant 3 jours. Andronique, dit-on, souffrit en paix jusqu'à la fin, se bornant à soupirer de temps en temps. « Seigneur, ayez pitié de moi. Pourquoi froissez-vous encore un roseau déjà brisé ?» La misère de ce creveur-dieu, parricide et sacrilège, est si profonde, et sa solitude si parfaite, qu'on croirait vraiment qu'il assume, à la façon d'un rédempteur, l'abomination de la multitude qui le déchire. Ce monstre est si seul qu'il ressemble à un dieu qui meurt. Sa face pleine de sang oriente les outrages de tout un monde et il traîne la douleur universelle comme un manteau. Puisse la racaille, quand son œuvre sera finie, emporter dans ses yeux féroces l'éblouissement de ce soleil de torture qui a étonné l'histoire. Il fallait sans doute la sublimité piaculaire d'une telle horreur pour que l'écroulement du vieil empire fût retardé 300 ans. Que dire d'un peintre capable de suggérer de telles pensées? Et la suggestion est si forte, une fois de plus, si spontanée, si victorieuse, que le cadre, tout démesuré qu'il soit, éclate, et que le drame pantelant s'échappe, se déroule, ainsi qu'un dragon, sur les spectateurs épouvantés. La physionomie de l'homme, très jeune encore, est tumultuaire autant que ses œuvres. Jamais un artiste n'a pu porter plus que lui son art sur chacun des traits de son visage. On y peut lire l'enthousiasme continu, perpétuel, un enthousiasme comme il n'y en a plus. La générosité merveilleuse, le zèle dévorant pour la beauté, où s'appareille à ses yeux la sainte justice. L'intuition d'éclair sur les somptuosités de la douleur. Une indignation de fleuve contre ta sottise qui lui fait obstacle. Et tout cela en capitale, haute comme des tours. Aussi prompte et non moins sonore que les volcans, lorsqu'un maroufle est irrespectueux, sa colère immédiatement pathétique s'élance à la confusion du philistin, des entrailles d'une politesse tellement exquise que le grand maître des cérémonies de l'Escurial, comparé à lui, tombe sur le champ au niveau d'un débardeur.